Tout de suite, c'est la revue de presse internationale de Camille Magnard. Bonjour.
Bonjour.
Nous retournons ce matin en Libye avec vous, 24 heures après qu'une bombe a détruit un hangar dans lequel étaient détenus 600 migrants. 44 au moins ont été tués, une centaine de blessés. Et ce carnage, qualifié comme tel par l'ONU, repose la question des armes qui circulent dans la Libye en guerre.
Oui, en guerre, une guerre larvée mais bien réelle depuis le début du mois d'avril pour la possession de la capitale Tripoli. Conflit entre le chef du gouvernement d'Union nationale, reconnu par la communauté internationale, Fayez al-Sarraj, et le maréchal Khalifa Haftar à la tête de l'autoproclamée ANL, armée nationale libyenne, qui contrôle, elle, l'est de la Libye. Le bombardement d'hier, affirme en Italie la Repubblica, aurait en fait fait 100 morts. Et la responsabilité en est quasiment unanimement attribuée au maréchal Haftar. Ces hommes auraient en fait confondu le centre de rétention de migrants avec une caserne voisine. Or, officiellement, nous rappelle Al Jazeera, depuis 2011, il y a un embargo international très strict qui interdit toute importation d'armes au pays. Et pourtant, les deux belligérants ne semblent avoir aucun mal à équiper leurs troupes respectives. L'embargo est constamment violé dans un sentiment d'impunité quasi totale de part et d'autre de la ligne de front. C'est ce que confirme Jeune Afrique sur la foi de photos prises en Libye et sur lesquelles on voit clairement des armes de fabrication étrangère. En gros, Fayez al-Sarraj se fournit principalement en Turquie quand Khalifa Haftar achète ses armes en Jordanie ou bien aux Émirats Arabes Unis, ce qui n'empêche pas, selon Al Jazeera à nouveau, qu'on a retrouvé des drones français dans son arsenal. La question de ces ventes d'armes illégales s'est encore posée mardi en Italie, pays très engagé sur le dossier libyen. Le Corriere della Sera raconte comment al-Sarraj a fait le déplacement non pas à Rome mais bien à Milan pour y voir donc spécifiquement Matteo Salvini, à qui il a demandé de faire comme le Turc Erdogan, de faire fi de l'embargo et de lui livrer des armes italiennes. Dans ce même imbroglio des armes pour la Libye, citons enfin le cas des États-Unis bien embêtés par une affaire selon laquelle des missiles américains ont été retrouvés dans l'arsenal de l'armée nationale libyenne. Selon le New York Times, ces armes ont été vendues à Tripoli via les Émirats Arabes Unis. Ces derniers s'en défendent, mais au Sénat américain, certains démocrates exigent déjà que le pays cesse de vendre des armes aux Émiratis puisqu'on ne peut pas contrôler à qui ils les revendent ensuite. On le voit donc avec cette question des armes, le conflit libyen est largement internationalisé, alimenté en coulisses par les intérêts bien particuliers de grandes puissances régionales, Turquie, pays du Golfe, Italie, France. Les 100 migrants massacrés hier en sont une fois de plus les victimes collatérales. Dans son éditorial pour Le Temps de Genève, Louis Lema n'hésite pas à qualifier le maréchal Haftar de seigneur de guerre utilisé comme un joker par les Occidentaux, les Français au premier chef. Et il dénonce cette complicité européenne sous couvert de contrôle de l'immigration illégale qui a rendu possible l'incroyable dérive meurtrière à l'œuvre en Libye et en Méditerranée.
En Israël, la mort d'un jeune juif d'origine éthiopienne, Camille Magnard, tué par un policier lundi, soulève une flambée de protestations qui ne semble pas prête de s'éteindre.
Et avec cette question, Israël est-il un pays raciste? À quoi le quotidien de gauche Haaretz répond d'emblée: oui, Israël est un pays raciste et les Éthiopiens qui manifestent parfois violemment depuis lundi ne font que crier cette réalité que les Israéliens eux-mêmes ne veulent pas voir. Il faudrait pourtant qu'ils puissent enfin l'entendre, cette vérité, écrit Eyal Gatto. La douleur, la colère qu'exprime aujourd'hui cette communauté, elle la ressent depuis des années, depuis des décennies, ostracisée, discriminée, invisibilisée, maltraitée par l'État et sa police. Haaretz évoque le sort d'au moins 3 jeunes gens tués par la police, justement, ces derniers mois. Ça ne peut pas être une coïncidence, mais c'est bien, affirme Eyal Gatto, un problème de perception des Israéliens d'origine éthiopienne qui est profondément ancré dans les institutions de l'État. Le pire, poursuit Unshape Pfeffer dans le même quotidien, c'est que la flambée de violence anti-police de ces derniers jours était tristement prédictible, tant le mal-être de la communauté éthiopienne était une bombe à retardement pour Israël. On savait qu'elle allait nous exploser entre les doigts un jour, mais personne n'a rien fait pour la désamorcer. Histoire d'une immigration à la cause noble, au départ, quand Israël a ouvert ses portes aux Falachas, ces juifs persécutés en Éthiopie, mais le pays n'a pas mesuré les enjeux de leur délicate intégration et ne se n'est pas donné les moyens, en tout cas, de cette intégration. l'immigration. 30 ans plus tard, eh bien, c'est la deuxième génération qui vient demander des comptes.
Enfin, nous sommes aujourd'hui le 4 juillet, la fête nationale des États-Unis, et Donald Trump a décidé cette année d'imprimer sa marque sur cette Independence Day. Independence Day,
pardon. Oui, il y tenait, hein, Donald Trump, depuis 2 ans. Il va l'avoir cette année. Le président des États-Unis va présider tout à l'heure un défilé militaire au pied du Lincoln Memorial de Washington. Le 45e président des États-Unis va réaliser, lui, un rêve d'autocrate. Quand, au même endroit, Martin Luther King, en 1963, prononçait son I have a dream, eh bien, le rêve de Donald Trump, c'est d'avoir, selon René Graham, journaliste du Boston Globe, d'avoir son défilé militaire à lui. Qu'on ne s'y trompe pas, écrit l'éditorialiste, Trump ne va pas rendre hommage au pays, il ne va se rendre hommage qu'à lui-même en ce 4 juillet dans une grande auto-célébration masturbatoire, je cite toujours René Graham dans le Boston Globe. Après tout, poursuit la journaliste, si ses copains, le russe Poutine, le nord-coréen Kim Jong-un ou le turc Erdogan le font, alors pourquoi Donald Trump ne pourrait pas lui s'offrir ce petit plaisir une fois par an? Dans le New Yorker, tout de même, David Remnick fait mine de s'étonner de la passion qu'affiche le président pour la chose militaire, lui qui s'était fait dans ses jeunes années réformé, il avait échappé à la guerre du Vietnam en évoquant de mystérieuses excroissances osseuses, selon Politico. Enfin, les principaux officiers les plus gradés des 4 différents corps de l'armée américaine ont trouvé le moyen, eux, de ne pas participer à la parade d'aujourd'hui. On ne sait pas si c'est à cause d'une soudaine épidémie d'excroissance osseuse.